Le podcast des maternelles. Bonjour tout le monde, c'est Benjamin Muller, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, parce que oui, c'est l'heure du podcast des maternelles. Le podcast des maternelles sur un sujet, alors, à la fois sensible, douloureux, mais terriblement, c'est terriblement important qu'on en parle sous toutes les formes, à la télé, dans des livres, à la radio, et sous cette forme en podcast, je disais dans des livres, évidemment. Le sujet du jour, on en a beaucoup parlé ces derniers temps grâce à des livres. Aujourd'hui, on va parler de l'inceste avec un témoignage fort, très fort, d'une maman qui va nous raconter comment elle a sauvé ses enfants de l'inceste. Donc, témoignage indispensable à écouter. Ça peut être douloureux à entendre, mais il faut l'entendre. Je pense que c'est très important. Puis derrière, on va commenter tout ça avec une psychologue, Patricia Chalon. Donc, on écoute Sylvaine avec Agathe Le Caron et puis on en parle juste après.
Qui touche en France une personne sur 10. Je ne sais pas si vous imaginez. Mais l'inceste, il peut frapper dans toutes les familles, même les plus heureuses, même les plus équilibrées en apparence, comme la vôtre, Sylvaine. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir le courage de venir témoigner aujourd'hui. Dieu sait que votre témoignage est vraiment crucial. Vous tenez à alerter, vous, les parents, sur les signaux, je le disais en introduction de cette émission, à détecter pour venir en aide aux enfants qui sont victimes de violences sexuelles. Il y a 3 ans, le drame de l'inceste s'est abattu sur votre famille, mais alors vraiment comme un orage, quoi, comme une tempête. Vous avez découvert que votre mari agressait sexuellement vos 2 enfants, Juliette qui avait 5 ans à l'époque et Gabin qui avait seulement 2 ans. Vous livrez un témoignage saisissant dans un bouquin qui s'appelle « Dénonce mon père », c'est chez City Éditions. Est-ce que vous pouvez déjà, avant que vous compreniez ce qui se tramait, est-ce que vous pouvez nous décrire votre famille ? Parce qu'on a toujours, c'est marrant, en parlant de votre histoire à mon entourage, première question, oui, mais ils sont comment ? Bah, ils sont comme toi et moi.
Voilà, exactement.
Comment elle était, votre famille, alors ?
Notre famille, en fait, on était un couple avec 2 enfants, 2 petits blonds aux yeux bleus. On était plutôt heureux. Souvent, les personnes qui nous entouraient nous disaient qu'on respirait l'amour. Lui était paraissait être un papa bienveillant. Il avait pris un congé parental, donc il s'était mis au 4/5e pour pouvoir garder les enfants le mercredi, parce qu'il m'a dit « je veux profiter au maximum des enfants et participer vraiment à leur éducation ». Même les personnes de la crèche me disaient « mais vous ne pouvez pas nous prêter votre mari tellement il est idéal ». Donc voilà, en tout cas, on transparaissait, oui, vraiment un couple équilibré, une famille équilibrée, on était heureux.
Et puis en août 2018, Juliette est âgée de 5 ans, Gabin a 2 ans.
Oui.
Tout va s'écrouler pour vous.
C'est ça.
C'est une nuit où Juliette vient vous parler, elle est inconsolable.
Oui, c'est exactement ça. En fait, Juliette est venue vers minuit aux abords de notre lit. Et, elle pleurait parce qu'elle se plaignait de mal à l'entrejambe. Moi, tout bêtement, j'ai pensé qu'elle s'était mal essuyée, comme ce sont les âges de l'apprentissage. Je pensais qu'elle s'était mal essuyée. Donc, je lui ai donné un coton imbibé d'eau. Elle s'est essuyée, elle est retournée dans son lit. Elle est revenue nous voir en pleurant à nouveau. Et là, je lui ai dit qu'on ne pouvait plus rien faire pour elle et qu'elle aille se rendormir paisiblement. Ça allait passer, mais surtout qu'elle arrête de pleurer pour ne pas réveiller son petit frère. Et donc, en fait, elle s'est allée se recoucher. Son papa s'est relevé en l'entendant encore pleurer. Et là, c'est là que je l'ai entendu hurler « Tu vas te taire ?» Oui, et une énorme claque. J'ai entendu une énorme claque. Donc, je me suis levée. Il était en train de l'étrangler. Donc, je l'ai débattu comme j'ai pu. J'ai tenté de rassurer, consoler mes enfants comme j'ai pu, sachant que ma fille n'arrêtait pas de me dire « j'ai failli mourir, papa m'a étranglé ». Elle a encore ce geste aujourd'hui. Et donc, du coup, j'ai demandé des explications tout de suite au père. Et en fait, il était dans un espèce de regard démoniaque ou dissocié, oui, totalement ailleurs, que je ne connaissais absolument pas de lui. Et il n'arrêtait pas de regarder. Il me disait « mais je ne sais pas ce qui se passe, c'est ma main, je ne sais pas pourquoi moi ?» Voilà, c'est tout ce qu'il a réussi à me répondre. Donc là, j'ai su qu'à ce moment-là, il y avait quelque chose qui n'allait pas
Vous n'aviez jamais vu ce regard
jamais,
chez lui. Vous n'aviez jamais vu cette violence.
Jamais. Il a toujours été adorable, très bienveillant à mon égard. Jamais un geste déplacé. Voilà.
Alors, le lendemain, vous avez décidé d'emmener Juliette chez le psychologue, tout de suite, en
c'est
fait.
Ça.
Vous êtes sous le choc.
Totalement.
Vous repartez avec vos enfants. Et là, c'est là qu'en fait, Juliette, vous avez fait des révélations qui vous ont...
C'est ça. En fait, je pense que Juliette s'est sentie en sécurité avec moi parce qu'elle a vu que je la défendais de son papa qui lui avait fait énormément de mal la veille. Mmh. Et donc, du coup, on est parti chez ma psychologue parce que moi, j'étais vraiment anéantie. J'essayais de ne pas pleurer devant les enfants pour ne pas trop non plus les surcharger en tristesse et en malheur. Et du coup, c'est dans la voiture que Juliette m'annonce, tu sais, papa, quand papa me touche la foufoune, ça, j'aime pas ça, ça me fait mal. Donc là, j'ai gardé tout le sang-froid possible, inimaginable. Je l'ai regardé, je lui ai dit, mais ah bon, mais quand est-ce qu'il t'a touché la foufoune, papa? Et là, elle me dit, hier et à Ibiza. Ibiza, sachant qu'on était allés 2 mois avant en vacances, où c'était pareil, des vacances idylliques, c'était très... très, très, très chouette.
En apparence, enfin, voilà, c'était formidable.
Ouais, tout était formidable. Donc,
après, voilà. J'imagine que vous avez fait le film à l'envers. Est-ce que vous vous êtes dit, mais qu'est-ce que j'ai pas vu? Est-ce qu'il y a des signes que j'ai zappés?
Oui, tout de suite, j'ai fait le film à l'envers. J'arrête pas de le faire encore maintenant. Y a plein de signes que j'aurais pu zapper. Juliette était une petite fille hyper active. Elle n'aimait pas qu'on la touche à l'école. Elle n'aimait pas faire les rondes. Elle avait des tocs. Il fallait qu'elle range tout de suite. Mmh. Voilà. Et on mettait ça sur le compte de l'hyperactivité, l'hyper... une personnalité, un manque de concentration. La maîtresse était allée jusqu'au point de me dire qu'elle était peut-être autiste. Donc c'était quand même c'est allé très loin. Et puis je revoyais aussi mon ex-mari. À quel moment il aurait pu faire des choses pareilles? Comment j'ai pas pu moi m'en apercevoir? Et en fait, avec du recul maintenant, je peux le dire 3 ans plus tard, enfin 3 ans après que j'ai appris les faits, j'aurais pas pu savoir. Il était tellement manipulateur et menteur dans son raisonnement juste pour ces choses-là que j'aurais pas pu...
Et donc vous l'avez confronté, votre mari, en rentrant de chez le psy. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a tout de suite avoué.
Alors, il a avoué que des petites choses. C'est venu vraiment crescendo au fur et à mesure des procédures. Je lui ai demandé tout de suite de demander pardon à sa fille. Il lui a ouvert les bras. Alors, elle y est allée, mais vraiment un regard de mépris le plus total. Et pour elle, elle voulait plus entendre parler de son papa. Il n'existait plus. Donc, autant pour moi, ça a été un cauchemar. Mais autant pour elle, c'était une véritable libération.
Après, tout s'est enchaîné.
Oui.
Évidemment, vous avez porté plainte. Il est parti en garde à vue. Vous avez dû déménager en catastrophe. Vous avez trouvé un petit appartement.
Oui.
Donc là, vous commencez à reprendre un petit peu votre souffle. Et puis, quelques semaines plus tard, Juliette vous fait d'autres révélations. Alors là, auxquelles vous attendiez, j'imagine, pas du tout. Vous pouvez nous raconter
En fait, c'est pas que je m'y attendais pas, c'est que je ne voulais pas m'y attendre à ces révélations-là, parce que j'avais déjà demandé au père plusieurs fois. Mon petit Gabin qui pleurait dans mes bras, je ne savais pas pourquoi, et je reconnaissais pas ses pleurs, en fait. On voyait vraiment que c'était des pleurs de tristesse. Et quand je lui ai demandé qu'est-ce qui se passait, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Et puis il me murmure « papa » pour la première fois dans mon oreille, et là, sa sœur est arrivée en trombe, et elle dit, mais Gabin, raconte ce que t'as fait, papa. La police te croit et maman te croit. Tu peux le dire. Mmh. Et là, encore un énorme coup. Donc je garde à nouveau tout le sang-froid. Elle me raconte, elle me mime les gestes, elle me mime tout ce qu'a fait, enfin tout, non, peut-être pas, mais ce qu'a fait son père sur son petit frère.
C'est elle qui a mimé les gestes.
C'est elle qui m'a mimé les gestes, voilà.
Après le 30 mai 2019, vous avez été convoqué sans les enfants au tribunal correctionnel.
Oui.
Vous n'avez pas voulu aller aux assises pour éviter de faire témoigner vos enfants, ce qu'on comprend très bien, et pour éviter aussi des longues procédures. Comment ça s'est déroulé, cette séance?
Imaginez qu'on m'ouvre mon corps et qu'on arrache tout à la pince à épiler au fur et à mesure, parce que j'ai appris d'autres choses, j'ai appris d'autres faits. Alors lui, il était... Il pleurait, en fait. Il pleurait tout le temps, ce qui rendait les choses encore plus difficiles, parce que ça devenait pathétique, parce que on était là pour les enfants. Pour moi, il fallait rester digne pour eux qu'ils aient la justice, que la justice soit faite pour eux et qu'ils soient reconnus comme victimes.
Et, voilà. Et après, alors quelle a été sa peine ?
Sa peine, c'est 2 ans de prison ferme, sachant que la prison ferme, c'était une mise sous bracelet, 5 ans d'injonction de soins psychiatriques et psychologiques.
Et là, ils voient encore leur père ou pas ? Enfin,
non. Ils l'ont vu 2 fois sous surveillance, à ma demande, parce qu'en fait, le tribunal a dit que c'est Mme Garcia qui décide quand les enfants peuvent le voir et dans quel contexte. Donc, à ma demande, j'ai voulu qu'un psychologue soit présent. Ça ne s'est pas très bien déroulé parce qu'ils n'étaient pas préparés, moi non plus. Et ça a réveillé des traumatismes. En fait, le fait de revoir l'agresseur, ça réveille des traumatismes et
donc il fallait mieux couper.
Il fallait couper.
Ce qu'il faut préciser, c'est que vous avez appris que votre mari, il avait été victime aussi de violences sexuelles.
Oui, tout à fait.
C'est votre cas aussi.
Oui.
Donc vous étiez d'autant plus alertée sur le sujet.
C'est ça.
Tout ça, c'est.
En fait, ce qui a sauvé ma Juliette, c'est que je la prévienne de ce qui pourrait éventuellement lui arriver. Je l'espérais pas, mais en tout cas, je lui expliquais que son intimité lui appartenait, que personne ne pouvait la
toucher.
C'est
ce qui a sûrement permis qu'elle ose vous parler.
C'est ce qui a permis qu'elle ose me parler.
Donc c'est ça aussi le message que vous voulez faire passer aujourd'hui aux parents.
C'est ça.
C'est de vraiment anticiper ce genre de questions.
Oui, c'est sans être dans la paranoïa, dans la surveillance constante. C'est juste prévenir, attention, vous avez un corps. Ce corps, il est à vous. Et il faut le respecter, personne n'a le droit de le toucher. Il y a Mélane qui a fait une très belle vidéo sur ça. Enfin, mes enfants n'arrêtent pas de la regarder depuis qu'elle est sortie. Il y a beaucoup de... Les parents, vous avez à disposition tout ce qu'il faut pour prévenir les enfants, avec leurs mots, sans être encore une fois trop cru. Donc il faut le faire parce que c'est ce qui a permis de sauver ma petite fille.
Voilà. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que grâce à la mère exceptionnelle que vous êtes, et je pèse mes mots, vos enfants, ils vont bien aujourd'hui.
Oui.
Voilà. Patricia Chalon, bonjour, merci d'être sur ce plateau. Vous êtes psychologue et présidente d'Enfance Majuscule, une association qui lutte pour la bientraitance, la défense des droits des enfants. Alors c'est vrai que Sylvaine a eu le courage de dénoncer son mari. Est-ce que c'est fréquent que les conjoints dénoncent les maris qui font des violences ou pas ?
Alors il y a différents cas de figure et c'est compliqué de s'y retrouver parce qu'il y a des femmes qui ne dénoncent pas. Il y a des femmes qui dénoncent et qu'on ne croit pas. Mmh. Il y a des femmes qui ne voient pas. Donc, les cas de figure sont très, très différents. Ce qui est formidable dans le cas de cette maman, c'est que non seulement elle avait fait de la prévention, elle avait expliqué à sa petite fille qu'il y avait des dangers dans la vie, elle a cru cet enfant et le mari a avoué. Donc ça a permis immédiatement de mettre en place quelque chose de bien traitant pour les enfants, pour qu'ils soient pris en charge dans de bonnes conditions. C'était vraiment, cette maman est extraordinaire parce qu'elle est un exemple. Merci à vous de faire comme ça des témoignages aussi poignants parce que ça permet aux autres mamans de se dire c'est possible, il faut que je sois vigilante, je peux dire.
On ne pourra pas oublier, mais on peut un peu réparer, ou en tout cas, on peut éviter que les enfants dévissent totalement psychologiquement aussi.
On n'oublie pas,
non, bien sûr.
Sauf pour ceux qui font ce qu'on appelle une amnésie traumatique et qui oublient pendant des années. Mais c'est quelque chose qui est inscrit dans le corps, dans l'esprit. Mais par contre, on peut se réparer et on peut grandir. Les enfants vont grandir bien avec une maman qui les aime et avec un environnement bien traitant.
On précise que vous parlez de cas où ce sont les hommes qui commettent les violences sexuelles. C'est le cas dans 98% des cas.
Absolument. Hein,
donc on est dans la quasi-totalité.
C'est pour ça qu'on ne parle pas des femmes. Il y a aussi des femmes agresseurs, mais très très peu, dans la majorité des cas.
L'écrasante majorité des cas, ce sont des hommes. Ophélie vous demande comment reconnaître que son enfant a été abusé, quels sont les signes d'alerte ?
Alors, je dirais que les mamans connaissent très bien leurs enfants. Et que dans les cas d'une violence faite à un enfant, on peut dire ça aussi pour le harcèlement, on peut dire ça pour les violences sexuelles d'une manière générale.
Les violences, on va dire.
Les violences. On va avoir un enfant qui soit va changer totalement de comportement, avec des signes un peu bizarres, un enfant qui devient très turbulent, qui ne dort plus, qui refait pipi au lit, qui les résultats scolaires chutent, et on se demande pourquoi. Qu'on soit un petit peu alerté sur tout changement de comportement. Il y a des enfants aussi dont le comportement change en étant de plus en plus renfermé, au contraire. Ils ne parlent plus, ils n'expriment pas, ils ne disent pas. Donc, d'une part, changement de comportement, d'autre part, ne pas hésiter, il y a des professionnels pour ça. Aller frapper à la porte d'un professionnel et dire, écoutez, il y a un truc là, mon enfant a changé de comportement, est-ce que vous pourriez en discuter avec lui ? D'autant qu'il y a une loi qui va passer disant que les consultations psychologiques maintenant vont être en grande partie prise en charge. Donc, même les gens qui n'auraient pas les moyens peuvent aller consulter un professionnel.
On a une question vidéo pour vous d'Annabelle.
Bonjour la Maison des Maternelles. Je suis la maman d'un petit garçon de 4 ans et j'ai quelques questions pour vous aujourd'hui. Comment puis-je sensibiliser mon enfant à la pédophilie et l'inceste sans toutefois lui faire peur ou l'angoisser ? Et surtout, comment l'inciter à parler de son plein gré à une personne de confiance en cas de doute ou de question ? Je vous remercie d'avance pour vos réponses et vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.
C'est vrai qu'en tant que parent, on ne sait pas trop comment s'y prendre sur ce sujet. Est-ce que vous avez des conseils ?
C'est une très bonne question, bien complète. C'est-à-dire que très vite, on peut parler de son corps à un enfant. Les petits-enfants, assez rapidement, commencent à vouloir d'ailleurs se laver tout seuls pour montrer à quel point ils sont grands. Et on leur explique que, ben oui, maintenant tu es grand, ton corps, tu peux te laver. Quelquefois, une grande personne aura à te toucher un docteur pour t'examiner, ou maman. Mais en tout cas, très vite, il se réapproprie son corps.
C'est ton corps.
C'est ton corps, il t'appartient. Et personne n'a le droit de toucher les parties intimes de ton corps. D'ailleurs, les parties intimes, on ne doit pas non plus forcer un enfant à faire des bisous il n'en a pas envie.
Oui, ça démarre là.
Voilà, ça démarre là. C'est simplement, je ne te force pas à montrer, à prêter ton corps à qui que ce soit.
Mais est-ce qu'on a introduit le fait que certaines personnes pourraient avoir des mauvaises intentions ?
C'est ça. Alors, le plus difficile.
Le plus difficile, c'est de rassurer l'enfant. Quand on lui dit ça. C'est-à-dire que la majorité des hommes, la majorité des grandes personnes sont bien traitantes. D'ailleurs, ils le voient tous les jours dans la vie. On s'occupe de lui, on prend soin de lui. Malheureusement, il y a des personnes qui sont pas bien traitantes et qui voudraient faire des choses qui ne lui feront pas du bien. Moi, j'ai vraiment une phrase qui me revient toujours à dire à un enfant, c'est si quelqu'un te fait quelque chose qui te fait peur, qui te fait mal, qui te fait honte,
Tu en parles. Céline nous a demandé à partir de quel âge on les sensibilise.
Tout petit. Dès qu'ils peuvent commencer à se laver tout seuls, comme on le disait tout à l'heure. Et puis quand on lit des livres, par exemple, aux enfants, il y a de plus en plus de livres maintenant, de matériel, de dessins animés, de petits livres pour les enfants qui parlent du corps, de comment c'est fait, etc. On peut très très tôt. Dès qu'on parle à ses enfants.
Finalement. En fait, dès 2 ans et demi, 3 ans, en lui donnant son bain, on lui explique, voilà, c'est ton zizi, il t'appartient, c'est le tien.
Absolument.
On commence dès l'âge-là.
Ouais. Absolument.
Alors, une question d'Inès qui dit, j'ai un bébé de 9 mois, j'ai été moi-même victime d'inceste et je ne laisse personne s'approcher de mon enfant. Comment gérer ma peur de l'inceste avec mon bébé ?
Je pense qu'elle a une peur viscérale parce qu'il lui est arrivé une chose tellement épouvantable. Et je pense que si elle se fait un petit peu aider pour essayer de comprendre que ce qui lui est arrivé à elle n'arrivera pas forcément à son bébé, que les papas ne sont pas tous comme ça et que les gens autour ne sont pas forcément malfaisants, qu'elle est vigilante, qu'il faut qu'elle protège son enfant et c'est très bien, mais cette terreur qui l'anime, qui l'habite tout le temps, ça doit être épouvantable, épuisant pour elle, donc elle devrait se faire aider un peu.
Il faut qu'elle soit accompagnée.
Accompagnée, oui.
Il y a Fabien qui vous demande quelles sont les conséquences des violences sexuelles dans l'enfance et à l'adolescence.
Ça dépend comment elles ont été écoutées, entendues, comment on les a traitées ou pas. Si rien n'est fait, il y a plein de conséquences néfastes. C'est-à-dire que certains, on parlait tout à l'heure de l'amnésie traumatique, vont cadenasser ça dans un coin de leur cerveau, faire comme si ça n'avait pas existé, et même penser que ça n'a pas...
Le corps se protège, en fait.
Il se protège, l'esprit se protège, sinon ça serait insupportable. Et pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, et au moment de quelque chose, d'une naissance, d'un mariage, d'un événement ou d'une émission, comme celle que vous êtes en train de faire, il y a quelque chose qui se débloque. Et alors là, c'est un espèce de tsunami psychique. Oui,
c'est ça, c'est terrible, c'est terrible.
Terrible. Donc, il peut se passer ça. Il peut se passer aussi que les comportements sont totalement toujours inadaptés, même si là, il n'y a pas d'amnésie traumatique. C'est qu'il y a quelque part dans l'esprit, dans le corps inscrit que la société, les gens, les rapports humains sont tout à fait dégradés, néfastes, et qu'il faut soit s'en protéger, soit les agresser. Soit... Donc il y a un comportement qui ne va pas. Ou une terreur, hein, comme cette maman dont vous parlez là, d'une reproduction sur ses enfants. Donc il faut vraiment, vraiment se faire aider.
Tiffaine vous demande, quand on est adolescent et qu'on a été victime d'inceste, vers qui se tourner lorsque nos parents ne nous croient pas ?
Alors il y a forcément quelqu'un qui va vous croire.
Donc c'est quoi ? C'est la famille proche, c'est
Ça peut être la famille proche, ça peut être quelqu'un de confiance, ça peut être un instit, ça peut être un prof, ça peut être un ami, les parents d'un ami. Parce que le copain à qui on va le raconter cette histoire a peut-être autour de lui des parents bien traitants ou des amis qui peuvent prendre en charge et entendre ce que dit cet enfant. Il faut en parler jusqu'à ce qu'on te croie.
Il y a un numéro d'écoute, il me semble.
Le 119. Voilà. Le 119, c'est le numéro national écoute enfance maltraitée qui est spécialisé là-dedans. Ce numéro de téléphone est en priorité pour les enfants.
Voilà,
quelquefois, il y a des temps d'attente terribles pour les adultes, mais pour les enfants, ils sont traités en priorité. Donc le 119, c'est vraiment leur numéro.
Ça peut être la solution, parce qu'on peut penser qu'à l'entourage, ce n'est pas évident
absolument
d'en parler.
On dit le 119, et pour les plus petits, on dit toujours le 119. Parce que parfois, c'est 119...
Mais les profs, etc., ils sont sensibilisés, formés à ces questions ?
Alors, ils ne sont pas formés, les psys non plus. Hein, je veux dire, les professionnels ne sont pas formés. Nous, on se bat depuis des années pour qu'il y ait une formation.
C'est ça, parce qu'il y a quand même des étapes et un protocole, j'imagine, à suivre pour que ces enfants arrivent à se réparer.
Absolument. Il y a de plus en plus de gens formés à l'éducation nationale, mais bon, nous, on forme, par exemple, en France majuscule, forme des instituts, forme des directeurs d'école, mais il y a plein de gens qui ne sont pas formés.
Il n'y a pas de stratégie nationale pour former les profs. En revanche, j'ai l'impression que sur la sensibilisation, là, en revanche, ça évolue.
Ça évolue beaucoup.
Ouais.
La parole se libère, on s'aperçoit que c'est un phénomène épouvantablement répandu.
Et on parle de 3 enfants par classe, victimes.
Et en ce qui nous concerne, on pense que c'est largement sous-évalué.
Ah oui ?
Ah oui,
absolument. Donc, il faut vraiment que la parole se libère, que les gens soient formés. On dit « va voir un psy », mais un psy, il faut que le psy soit formé.
Absolument.
Aussi.
Oui.
Que le médecin soit formé, le médecin de famille. Donc, il y a un besoin de formation de tous les professionnels de l'enfance pour que la parole soit vraiment bien entendue, pas seulement entendue.
Et en tant que, enfin, moi, j'étais enseignante, et c'est vrai qu'on a été formés à l'UFM sur le recueil de la parole et sur la démarche à suivre, mais pas vraiment sur l'accompagnement et autre chose. On est plutôt sur un accompagnement juridique, j'ai envie de dire. Comment on recueille la parole de l'enfant et à qui on s'adresse tout de suite après.
Alors, ce qui est... D'abord, c'est déjà important.
C'est déjà bien.
C'est déjà drôlement
quoi
bien.
Faire.
Mais ce qui est encore mieux, c'est quand il y a ces lieux particuliers de recueil de la parole, dans les hôpitaux, avec tout ensemble, l'hôpital, la police, la psy, tout le monde est là pour recueillir une fois la parole de l'enfant, l'enregistrer. Sinon, allez
après,
recueillir
c'est
en tant qu'enseignant la parole de l'enfant.
Ça.
Ensuite, il va aller voir le policier, puis il va aller voir des tas et des tas d'intervenants. Moins il y a d'intervenants, et mieux c'est pour l'enfant.
Bien sûr.
C'est ce qu'on entendait tout à l'heure dans le témoignage, c'est-à-dire que la petite fille a dit « bon, je le raconte une fois, mais je ne veux plus ». En fait, elle revit le moment.
Absolument. Vous savez, les enfants, quand ils racontent ou quand ils voient des images, ils les revivent à chaque fois.
Bien sûr.
Donc, une fois, peut-être une deuxième fois, mais il ne faut pas que ça soit comme ça, permanent.
Vous étiez vraiment enseignante, toi ?
Tout à fait.
Je crois que c'était un mythe pour être recrutée dans cette émission. Ah, c'était vrai ? Ok. Pauline vous demande, quand il s'agit d'inceste et plus globalement de pédocriminalité, par qui sont commis les crimes le plus souvent ? 98% d'hommes, ça on a compris. C'est surtout les pères, les oncles, dans la famille proche.
Les grands-pères. Et ça, c'est terrible. Hein. parce que...
Mais alors, des grands-pères qui n'auraient pas forcément commis ce genre d'acte avec les enfants, avec les mais enfants, qui passent à l'acte...
Avec les petits-enfants. Et c'est terrible pour les mères, là, qui ont de la peine à croire que ça arrive à leurs
les
enfants.
Les mères et les pères, du coup. Oui.
Les mères et les pères, ouais, puisque ça ne leur est pas arrivé à eux, enfants. Ouais. Ce père n'a pas été incestueux et il devient un grand-père incestueux. C'est...
Allez, bonne journée. Bonne journée tout le monde. Ça va être les vacances de la Toussaint, ça va être sympa.
Axel, vous demandez l'étape de la justice, est-elle fondamentale pour la reconstruction des victimes d'inceste?
Alors, il y a plein de théories différentes par rapport à ça. La justice va mettre un cadre, va dire ça a existé, et comme ça a existé, cet homme a été puni pour
les
actes.
Il est coupable.
Il est coupable. Ouais. Donc, ça permet de mettre un cadre sécurisant autour de quelque chose qui a été totalement insécurisant. Mmh. Mais pour certaines victimes, passer par le stade justice est quelque chose qui les terrorise tellement que parfois, elles arrivent à s'en sortir par le cadre psy seulement.
D'accord.
Pour moi, le cadre justice est très important. Je pense que c'est fondamental. Mais on ne va pas culpabiliser les gens qui ne peuvent pas le faire. Mmh.
Pour rester sur les questions judiciaires, Valérie vous demande à quand l'évolution des sanctions, à quand le suivi des victimes. Pour l'avoir vécu, je sais à quel point tout cela détruit et je voudrais que ce tabou tombe. Alors, l'évolution des sanctions. On entend l'histoire tout à l'heure qui nous retourne tous le ventre et on apprend que la peine semble quand même assez faible.
Alors déjà, il y a beaucoup de choses qui ont changé cette année et il y a une bonne nouvelle, parlons-en pour une fois qu'il y a une bonne nouvelle, c'est que le viol incestueux est reconnu. On ne demande plus le consentement de l'enfant jusqu'à 18 ans, jusqu'à 15 ans pour toutes les victimes de pédocriminalité, mais en cas d'inceste, jusqu'à 18 ans. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait dire « oui, mais il était consentant, il n'a pas refusé ». Et maintenant, on ne demande plus.
Ben maintenant, au moins, il n'y a plus de débat.
Il n'y a pas de débat. Ouais. Pour tout acte, non seulement, parce que je voudrais que ceux qui nous écoutent là se rendent bien compte que « oui, mais je ne l'ai pas violé ». Le viol incestueux, c'est effectivement une pénétration par tous les moyens possibles. Et c'est aussi des actions bucco-génitales. Je pense qu'il faut qu'ils entendent ça. Ils sont dans le viol incestueux en faisant ça. Et donc, c'est passible des assises et c'est passible de sanctions très lourdes.
Alors, est-ce qu'ils ont vraiment des sanctions très lourdes, vous qui assistez à beaucoup d'affaires?
Alors, il y a de plus en plus de sanctions lourdes. Il y en avait peu. Il y en avait peu, comme la parole circulait peu, comme on croyait peu, comme les sanctions étaient légères. J'espère vraiment de tout mon cœur que la conscience
L'affaire venant... Kouchner a fait beaucoup de bien, vous voulez
oui,
dire
ouais. Absolument. Absolument. Mmh. Les livres qui sont parus, celui de Gisèle, je suis sûre, va faire beaucoup de bien aussi à des tas de mamans. La parole se libère les sanctions vont devenir de plus en plus dures.
Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'elle n'est pas allée aux assises, hein, oui, Sylvaine, exprès, parce qu'elle ne voulait pas que ses enfants témoignent et à re-expliquer leurs sévices, etc. Donc.
Alors Alexandra, qui a besoin d'être rassurée, je pense, j'ai été victime d'inceste à l'âge de 8 ans, j'ai très peur de devenir un jour maman. À cause de mon vécu, est-ce normal?
Alors, c'est normal qu'elle le pense. Il va falloir que ça devienne anormal, qu'elle ne mette pas en acte son désir d'enfant, parce qu'elle se fera aider, pour qu'elle comprenne qu'elle ne va pas ni répéter elle-même dans son couple ou dans sa vie ce qui lui est arrivé, et qu'il n'y a pas que des pères incestueux. Mais il faut qu'elle se fasse aider, sinon, effectivement, ça sera dur à porter, elle n'arrivera peut-être pas à tomber enceinte parce que son corps va refuser et bloquer alors qu'elle a juste besoin de débloquer. Il lui est arrivé. Ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que ce qui leur arrive, c'est comme c'est une blessure immense. Mais que comme toutes les blessures, elles peuvent cicatriser. Ça ne veut pas dire qu'elles vont disparaître. Une cicatrice, on la voit, elle est là. Mais elle peut être non violente, ne plus faire mal, ne plus empêcher de vivre. Mais pour ça, il faut réparer. Il faut réparer. Quand on se blesse, on va voir un médecin pour qu'il mette des points de suture, pour que, il va falloir faire pareil pour elle, pour qu'elle puisse vivre tranquillement.
On finit par une note d'optimisme.
Oh, s'il vous plaît.
Il y a des raisons non, d'être optimiste dans la période actuelle.
Absolument. Je pense que ce qu'on se disait là sur la libération de la parole, sur le fait que...
La sensibilisation des adultes aussi, de l'entourage.
De l'entourage, l'éducation des professionnels.
Aussi.
l'éducation, oui, mais quand on est parent, on n'a pas le diplôme. Hein.
C'est sûr, mais je pense qu'à force de rabâcher
tous les jours
les messages que vous faites passer dans les médias sont cruciaux. C'est-à-dire que moi, je me souviens de vous parce qu'on s'était déjà rencontrés et vos phrases sont gravées dans ma tête. Et le soir, je rentre et je les dis à mes enfants.
Ah ben non, on va tous faire un. Ce soir, rentrons.
Vous voyez ce que je veux dire ? C'est quand même à force de travail, etc. Quand même, les messages passent.
Les messages passent. Les messages passent auprès beaucoup des parents bien traitants. Qui protègent mieux leurs enfants. Il faut encore que ça passe auprès des parents maltraitants, parents incestueux.
Ça, c'est encore une autre histoire.
Et c'est un gros travail. Donc, la protection de l'entourage, on ne dira jamais assez aussi que le 119 dont on parlait est un numéro où les adultes peuvent appeler en disant « Écoutez, là, j'ai un problème, j'ai un doute, il y a quelque chose qui ne va pas. »
Voilà, le podcast des maternelles sur ce sujet si douloureux, mais dont il est si important de parler, notamment pour nous armer, nous, pour que nous-mêmes on arme nos enfants, face à ces drames, ces horreurs, il n'y a pas d'autre mot, que représente l'inceste. Merci à toutes, merci à tous. On se retrouve demain. Attendez, je réfléchis. Bah oui, demain, c'est vendredi. Et vous savez quoi ? Moi, le vendredi, j'aime bien. Je sais pas vous, mais moi, c'est un peu, il y a un petit quelque chose dans l'air que globalement, j'aime bien. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de journée, une très bonne fin de nuit. Je crois qu'on, je vois les statistiques, vous êtes quelques-uns et quelques-unes à écouter ce podcast de nuit. Je me mets à votre place, je me dis que vous faites des petites insomnies et que vous vous dites, bah tiens, je vais écouter le podcast. Donc voilà, bah écoutez, je vais parler un peu moins fort pour vous aider à vous endormir. Fermez un œil, fermez le deuxième œil. C'est parti pour faire dodo. De toute façon, c'est la fin de l'épisode, donc vous pouvez éteindre. Allez, bon courage, bonne nuit tout le monde. Ciao.